Chacun sait qu'en cette année-là, la reine d'Angleterre fit sa paix particulière avec la France et qu'entre autres articles, il y fut stipulé que les Anglais prendraient possession de la ville, fortifications et port de Dunkerque jusqu'à sa démolition et comblement du port. En conséquence, les Anglais vinrent à Dunkerque au mois de septembre, avec 4 à 5 000 hommes s'emparèrent de la ville, fort et citadelle, que la garnison française évacua. Mais comme je l'ai déjà fait remarquer, la marine de France était si dénuée qu'on ne pouvait armer les galères pour se mettre en mer. Ainsi la France convint avec la reine d'Angleterre que les galères, avec leurs équipages et chiourmes, resteraient dans le port jusqu'à ce qu'on commençât à le combler, ce qui ne pouvait se faire qu'après l'hiver. Il fut aussi arrêté que rien ne sortirait du port, soit bâtiment, équipage ou chiourme, qu'avec la permission expresse de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Les Anglais n'eurent pas plutôt pris possession des postes et établi la garnison dans la ville et la citadelle qu'ils accoururent en foule sur les galères pour satisfaire leur curiosité de voir des bâtiments que la plupart n'avaient jamais vus. Entre autres officiers, plusieurs qui étaient français réfugiés, ayant appris qu'on tenait en galère des réformés pour le sujet de leur religion, s'informèrent d'abord qu'il y en avait sur les dites galères et apprirent que nous étions 22. Ces officiers témoignèrent leur zèle pour leur religion de cette occasion. En venant nous embrasser, gémir et pleurer avec nous dans nos bancs, et ils ne pouvaient s'empêcher de donner les marques de leur indignation et de leur pitié en considérant nos chaînes et les misères qui accompagnent ce dur esclavage. Ils restaient une grande partie du jour avec leurs chers frères souffrants, assis très accommodément, ne craignant ni vermine ni puanteur que cette misère engendre, et se faisaient gloire, en présence des officiers des galères qui voyaient leurs actions, de nous caresser, nous consoler et nous exhorter à la persévérance. Leur exemple attira grand nombre d'officiers anglais les plus qualifiés, qui témoignèrent leur piété par des actions dignes de vrais protestants. La soldatesse qui y accourut aussi en foule, et selon leur manière d'exprimer leur zèle, jurait que si on ne nous délivrait pas de bonne grâce, ils le feraient, le sabre à la main. J'ai déjà dit que tout le monde entrait librement sur les galères, mais dans cette occasion, les aumôniers prièrent M. de Langeron d'ordonner qu'on n'y laissât plus entrer personne, vu le scandale, disait-il, que cela portait à la religion catholique. On essaya cette défense. Mais les soldats anglais, qui se présentaient pour entrer, et qu'on priait fort civilement de s'en abstenir pour toute réponse, mettaient le sabre à la main, disant qu'étant maîtres de la ville et du port, ils y étaient aussi les maîtres des galères, et qu'ils y entreraient de gré ou de force. On fut donc contraint de laisser la planche libre à un chacun qui voulait y entrer. Dans ces entrefaites, un colonel anglais, dont j'ai oublié le nom, vint me parler et me dit que Milord Hill, qui était gouverneur de Dunkerque pour la reine d'Angleterre, pouvait ignorer notre détention et la cause de notre esclavage, et me conseilla de lui adresser un placé pour l'en informer et implorer sa bonté pour notre délivrance. Je fis ce placé le mieux qu'il me fut possible, et le colonel s'en chargea et le remit à Milord Hill. Le lendemain, ce Milord m'envoya son secrétaire pour me dire de sa part qu'il approuvait la connaissance que je lui donnais de notre détention et qu'il s'emploierait avec zèle pour notre délivrance, mais que n'en étant pas le maître, il allait en écrire à la reine, et que ses ordres, qu'il s'assurait qu'ils nous seraient favorables, détermineraient ses actions, qu'il nous priait en attendant de prendre patience encore pendant 15 jours. Ce secrétaire ajouta que Milord Hill nous offrait sa bourse si nous avions besoin d'argent. Je lui répondis que nous n'avions besoin de rien que de la protection de Milord, et que j'étais très reconnaissant de la réponse qu'il faisait à mon placé et du zèle qu'il témoignait avoir pour nous rendre service. Je fis savoir cette réponse à nos frères qui étaient sur les 6 galères, en les exhortant en même temps d'être circonspects avec les soldats anglais et d'éviter tout discours qui pourrait les animer à user de violence pour nous procurer notre liberté. Qu'il fallait au contraire qu'ils leur dissent la réponse de leur gouverneur, dont la conclusion était d'attendre patiemment les ordres de la reine. Dès lors, tout se tint tranquille, et chacun de nous attendit avec patience des nouvelles d'Angleterre. Pendant les 15 jours que le gouverneur nous avait demandé, soit qu'il eût écrit à la reine ou non, il se rendit grand ami de M. de Langeron, notre commandant. Un jour, Milord lui dit qu'il ne comprenait pas comment la cour de France avait pu faire la bévue de ne nous pas faire sortir de Dunkerque avant qu'ils y fussent entrés, que cette cour ne pouvait pas ignorer que la nation anglaise regardait avec horreur les mauvais traitements qu'on faisait aux protestants pour cause de religion, et que même dans toutes les églises en Angleterre, on priait Dieu tous les jours pour la délivrance des réformés qui souffraient sur les galères de France. Quand un mot, la cour de France aurait dû prévoir que les Anglais étant les maîtres de Dunkerque et ces 22 protestants qui gémissaient dans les fers pour leur religion étant sous les étendards et à la vue de la garnison anglaise, la reine ne pouvait manquer à les faire délivrer. ne fût-ce que pour éviter le désagrément d'obéir en quelque sorte à la soldatesque, qui menaçait déjà de faire violence si on ne délivrait pas ces gens-là. Monsieur de Langeron ne put s'empêcher de convenir qu'effectivement, sa cour avait fait faute en cela, et le pria d'user de prudence dans cette occasion, et de lui communiquer son avis sur ce qu'il y aurait à faire pour prévenir tout accident. Ajoutant qu'il savait que le roi son maître ne donnerait jamais son consentement pour la délivrance de ses réformés. Milord Hill lui dit qu'il savait un moyen pour prévenir tout fâcheux événement. « Écrivez, lui dit-il, au ministre de votre cour, qu'il vous ordonne de les faire sortir secrètement de Dunkerque par mer. J'y donnerai la main, et la chose sera facile et sans danger. » Monsieur de Langeron ne manqua pas de suivre ce conseil, et bientôt, il reçut ordre d'agir de concert avec Milord Hill pour notre secret enlèvement, ce qui se fit de la manière suivante. Le 1er octobre, fête de Saint-Rémy, nous vîmes une barque de pêcheurs enchaînée à notre galère. On fit courir le bruit que cette barque était confisquée pour avoir fait la contrebande, et les Anglais, comme les autres, prirent cela pour argent comptant. Le soir, on battit la retraite comme à l'ordinaire, et chacun fut se coucher. J'étais dans mon paillot, dormant tranquillement, lorsque je fus éveillé tout à coup par notre major armé d'un pistolet et accompagné de deux soldats de galère qui me mirent la baïonnette à la gorge, en me menaçant que, si je faisais le moindre cri ou bruit, c'était fait de moi. Le major, qui était de mes amis, m'exhorta amiablement à ne faire aucune résistance, sinon qu'il exécuterait les ordres qu'il avait de me tuer. « Hélas, lui dis-je, monsieur le major, qu'ai-je fait et que va-t-on faire de moi ?»« Tu n'as rien fait, me dit-il, et on ne te fera aucun mal, pourvu que tu sois docile. » Il me fit ensuite promptement descendre dans cette barque de pêcheurs dont j'ai parlé, et cela sans feu ni lumière, et avec grand silence, de peur d'être aperçu de la sentinelle anglaise de la citadelle, dont nous n'étions pas fort éloignés. En entrant dans cette barque, j'y trouvai nos autres 21 frères que l'on avait enlevés dans leur banc de la même manière que moi. On nous enchaîna tous dans le fond de cale en observant un grand silence, et quoi qu'on nous eût fait coucher sur le dos comme des bêtes que l'on va immoler, chacun de nous avait un soldat de galère qui nous tenait la baïonnette à la gorge pour nous empêcher de crier, ni même de proférer aucune parole. Ensuite, la barque démarra pour sortir du port. Il fallait passer près d'un navire anglais qui se tenait toujours au milieu du port pour empêcher que rien n'en sortît. Ce navire fit venir cette barque à son bord, lui demandant où elle allait. Le maître de la barque, qui était anglais, lui répondit en cette langue qu'il allait à la pêche pour la maison de Milord Hill, dont il montra un billet. Le capitaine du dit navire prit le billet et il eut ceci, écrit et signé de la main de Milord Hill. « Laissez sortir cette barque qui va à la pêche pour ma maison. » Ce capitaine, ayant lu ce billet, le visa et laissa aller la barque. Tous ceux qui commandaient les forts, tant du port que des jetés, en firent de même, et enfin, nous nous trouvâmes en pleine mer. Pour lors, les soldats nous quittèrent, montèrent sur le tillac de la barque et fermèrent les écoutilles sur nous. Et par là, nous eûmes la liberté de nous arroger plus commodément sur le sable qui servait de lest à cette barque. Nous savions qu'on ne sortait jamais en mer sans avoir provision, que ce ne serait que du pain et de l'eau. Comme nous n'en avions vu aucune en entrant dans la barque, nous nous imaginâmes tous fortement qu'on allait nous couler à fond et que les soldats se sauveraient à terre dans la chaloupe qui était attachée à la barque. On peut juger dans l'angoisse où nous plongeait cette idée et l'affreuse situation où nous nous trouvions. Étant sans lumière dans ce fond de cale, ne voyant ni n'entendant personne, notre imagination, échauffée par la terreur, ne nous peignait que plus vivement le danger où nous croyions être. Ce fut dans cette cruelle perplexité que nous passâmes cette nuit, en ne cessant d'adresser nos prières au Seigneur comme des gens qui attendent le coup de mort. Quelques-uns de nous, saisis de crainte, redoublaient nos alarmes, en s'écriant de temps en temps « Frères, nous périssons, l'eau entre dans la barque !» À ces gémissements, chacun de nous redoublait ses prières, croyant être au dernier instant de sa vie. Il se trouva cependant qu'un vieillard de 70 ans ne le croyait pas aussi fermement que nous. Et certainement il nous aurait fait rire si nous nous fussions trouvés dans des circonstances moins accablantes. Il était assis sur son havresac, et entendant crier que l'eau entrait dans la barque, il se leva tout droit, donnant d'une main son havresac et cherchant de l'autre avec empressement s'il ne trouverait pas un clou pour l'y accrocher. Comme il était auprès de moi et que son remuement interrompait ma dévotion, je lui demandai ce qu'il faisait. « Je cherche à pendre mon havresac, me dit-il, aussi haut que je pourrai, de peur que mes hardes ne se mouillent. Songez à votre âme, bonhomme, lui dis-je. Si vous vous noyez, vous n'avez plus besoin de hardes. » « Hélas, dit-il, il n'est que trop vrai. » Et aussitôt il quitta la recherche du clou. Ce trait nous fait bien voir qu'il y a partout de l'homme et que nous tenons toujours à la terre. Nous sentions bien que notre barque allait à la voile, mais nous ne savions pas quel air devant nous tenions. Lorsqu'il fut jour, on ouvrit l'écoutille Et comme je me trouvais dessous et que me tenant sur les pieds, je pouvais voir sur le tillac, je me levai promptement tout droit. Et la première personne que j'aperçus fut notre capitaine d'armes, qui est ordinairement le premier sergent des quatre qu'il y a dans les compagnies de marine. Il était fort de mes amis, et il n'y avait pas longtemps que je lui avais rendu service auprès de notre capitaine. « Eh, vous voilà, monsieur Prère, lui dis-je. « Oui, mon ami, me dit-il d'un air riant. « Je crois que vous n'avez pas trop bien reposé cette nuit. « Mais où nous menez-vous »« Tenez, me dit-il. « Voilà Calais, en me montrant la ville devant laquelle nous étions. « Nous allons vous y débarquer, ajoutant que nous n'y ferions pas un long séjour et que nous n'avions qu'à préparer nos jambes. « Mais, monsieur, lui dis-je, vous n'êtes pas capable, ni tous les hommes du monde, de faire marcher des gens décrépits de vieillesse ou qui sont impotents ou malades comme moi. J'avais pour lors la fièvre tierce. En ce cas, le roi, qui ne demande jamais l'impossible, fait fournir des chariots aux infirmes, et je suis certain qu'on a joint à votre route un ordre de nous en faire donner. « Tenez, dit-il, en me le montrant, voyez s'il n'y a plus un chariot ordonné pour les chaînes de rechange et le bagage. » Comme je voulais voir notre destination, qu'il ne m'avait pas voulu dire, au lieu de jeter les yeux sur le commencement, je regardais à la fin, et j'y lus ces lignes, « Au Havre de Grâce, où ils seront remis à l'intendant jusqu'à nouveaux ordres. » J'en avais assez vu pour satisfaire la curiosité de nos frères, à qui je dis notre destination, telle que je l'avais lue, le plus doucement qu'il me fut possible, de craindre que le capitaine d'armes ne s'en aperçût. On nous débarqua donc à Calais, nous fûmes conduits en prison, chargés de nos chaînes, et nous reçûmes l'étape sur le pied des soldats de recrues. Le lendemain matin, l'argousin de la chaîne, car il y en avait un qui nous suivait, nous enchaîna de deux en deux, chacun par une jambe, et ensuite fit passer une longue chaîne dans les anneaux ronds des chaînes qui nous accouplaient, de sorte que les 11 couples que nous étions étaient tous enchaînés ensemble. Or, il faut savoir que parmi nous, il y avait de vieilles gens, qui par la faiblesse de leur âge et par leurs infirmités, ne pouvaient pas marcher un quart de lieue, quand même ils n'auraient pas été chargés de chaînes. Nous avions aussi des malades et des gens usés de misère et de fatigue, et outre cela, nous n'avions pas marché depuis fort longtemps. Il nous était donc impossible de faire 4 ou 5 lieues par jour comme notre route le portait. Après qu'on nous eut enchaînés, j'appelai notre capitaine d'armes. « Voyez, monsieur, lui dis-je, s'il est possible que nous marchions dans l'état où vous nous voyez. Croyez-moi, ajoutai-je, faites-nous fournir un ou deux chariots pour porter les infirmes. Vous êtes en droit de les exiger partout où vous passerez. Je sais mes ordres, me dit-il, et je les observerai. » Je me tus et nous partîmes. Nous n'eûmes pas fait un quart de lieue qu'une petite montagne se présentant pour la monter. Il nous fut impossible de le faire. Car 3 ou 4 de nos vieillards et malades tombèrent par terre, ne pouvant plus faire un seul pas. Et comme nous tenions tous à une même chaîne, nous ne pouvions plus avancer, à moins que nous n'eussions assez de force pour les traîner. Notre capitaine d'armes, avec les soldats qu'il commandait pour notre escorte, nous exhortèrent par de belles paroles à prendre courage et à redoubler nos efforts. Mais contre l'impossible, nul ne peut. Le capitaine était fort embarrassé et ne savait quel parti prendre. Nous nous assîmes tous par terre pour donner le temps de se reposer à ceux qui étaient tombés et reprendre ensuite la marche, si cela se pouvait. Ce moyen ne put nous aider, quoi que nous pût dire le capitaine, qui ne savait comment faire pour sortir d'embarras. Je l'appelai et lui dis que, dans l'extrémité où nous étions, il fallait que de 2 conseils que j'allais lui donner, il en prit un. « Faites-nous canarder à coups de fusil, lui dis-je, ou, comme je vous l'ai déjà dit, faites-nous fournir des chariots pour nous conduire. Vous me permettrez de vous faire observer que, n'ayant jamais servi que sur mer, vous ne pouvez savoir ce que c'est qu'une route que le roi ordonne par terre. Dans les ordres qu'il donne pour la marche, soit de soldats, soit de recrues, soit de criminels, il est sous-entendu que, lorsque ceux qui sont conduits ne peuvent absolument marcher, leurs conducteurs doivent leur faire donner des voitures qu'ils prennent de la part du roi dans les bourgs, villes ou villages où ils se trouvent. Vous êtes dans ce cas, monsieur, continuai-je. Envoyez un détachement de vos soldats au premier village. « Enlevez autant de chariots que vous en avez besoin pour porter les infirmes, et pour nous faire voir notre soumission pour les ordres de sa majesté à l'égard de la route qu'elle nous fait faire, nous vous donnerons 6 livres par jour pour le louage d'un chariot, ce qui sera pour vous un profit réel, car de la part du roi, pouvant avoir des chariots gratis, ces 6 livres vous demeureront. » Le capitaine m'écouta, et quelques-uns de ses soldats, qui en savaient plus que lui, confirmèrent ce que je venais de lui dire, ce qui le détermina à prendre le parti que je lui conseillais. Les paysans lui fournirent 2 chariots jusqu'à la première couchée, et ainsi, d'endroit en endroit, jusqu'au Havre de Grâce.